Quatrième proposition. Les difficultés inhérentes à la métaphysique, les antinomies qu'elle soulève, les contradictions où elle tombe, la division en écoles antagonistes et les oppositions irréductibles entre systèmes viennent en grande partie de ce que nous appliquons à la connaissance désintéressée du réel, les procédés dont nous nous servons couramment dans un but d'utilité pratique. Elles viennent principalement de ce que nous nous installons dans l'immobile pour guetter le mouvant au passage, au lieu de nous replacer dans le mouvant pour traverser avec lui les positions immobiles. Elles viennent de ce que nous prétendons reconstituer la réalité, qui est tendance et par conséquent mobilité, avec les percepts et les concepts qui ont pour fonction de l'immobiliser. Avec des arrêts, si nombreux soient-ils, on ne fera jamais de la mobilité, au lieu que si l'on se donne la mobilité, on peut en tirer par la pensée autant d'arrêts qu'on voudra. En d'autres termes, on comprend que des concepts fixes puissent être extraits par notre pensée de la réalité mobile, mais il n'y a aucun moyen de reconstituer avec la fixité des concepts, la mobilité du réel. Le dogmatisme, en tant que constructeur de systèmes, a cependant toujours tenté cette reconstitution. Cinquième proposition. Il devait y échouer. C'est cette impuissance et cette impuissance seulement que constatent les doctrines sceptiques, idéalistes, criticistes. Toutes celles, enfin, qui contestent à notre esprit le pouvoir d'atteindre l'absolu. Mais de ce que nous échouons à reconstituer la réalité vivante avec des concepts raides et tout faits, il ne suit pas que nous ne puissions la saisir de quelque autre manière. Les démonstrations qui ont été données de la relativité de notre connaissance sont donc entachées d'un vice originel. Elles supposent, comme le dogmatisme qu'elles attaquent, que toute connaissance doit nécessairement partir de concepts aux contours arrêtés pour étreindre avec eux la réalité qui s'écoule. Sixième proposition. Mais la vérité est que notre esprit peut suivre la marche inverse. Il peut s'installer dans la réalité mobile, en adopter la direction sans cesse changeante, enfin la saisir intuitivement. Il faut pour cela qu'il se violente, qu'il renverse le sens de l'opération par laquelle il pense habituellement, qu'il retourne, ou plutôt refonde sans cesse ses catégories. Mais il aboutira ainsi à des concepts fluides, capables de suivre la réalité dans toutes ses sinuosités et d'adopter le mouvement même de la vie intérieure des choses. Ainsi seulement se constituera une philosophie progressive, affranchi des disputes qui se livrent entre les écoles, capable de résoudre naturellement les problèmes parce qu'elle se sera délivrée des termes artificiels qu'on a choisis pour les poser. Philosopher consiste à invertir la direction habituelle du travail de la pensée. Septième proposition. Cette inversion n'a jamais été pratiquée d'une manière méthodique. Mais une histoire approfondie de la pensée humaine montrerait que nous lui devons ce qui s'est fait de plus grand dans les sciences, tout aussi bien que ce qu'il y a de viable en métaphysique. La plus puissante des méthodes d'investigation dont l'esprit humain dispose, l'analyse infinitésimale, est née de cette inversion même. Note de Bergson à cet endroit. surtout chez Newton, dans sa considération des fluxions. Fin de note. La mathématique moderne est précisément un effort pour substituer au tout fait ce qui se fait, pour suivre la génération des grandeurs, pour saisir le mouvement, non plus du dehors et dans son résultat étalé, mais du dedans et dans sa tendance à changer. Enfin, pour adopter la continuité mobile du dessin des choses. Il est vrai qu'elle s'en tient au dessin, n'étant que la science des grandeurs. Il est vrai aussi qu'elle n'a pu aboutir à ses applications merveilleuses que par l'invention de certains symboles, et que, si l'intuition dont nous venons de parler est à l'origine de l'invention, c'est le symbole seul qui intervient dans l'application. Mais la métaphysique, qui ne vise à aucune application, pourra et le plus souvent devra s'abstenir de convertir l'intuition en symbole. Dispensée de l'obligation d'aboutir à des résultats pratiquement utilisables, elle agrandira indéfiniment le domaine de ses investigations. Ce qu'elle aura perdu par rapport à la science en utilité et en rigueur, elle le regagnera en portée et en étendue. Si la mathématique n'est que la science des grandeurs, si les procédés mathématiques ne s'appliquent qu'à des quantités, il ne faut pas oublier que la quantité est toujours de la qualité à l'état naissant. C'en est, pourrait-on dire, le cas limite. Il est donc naturel que la métaphysique adopte, pour l'étendre à toutes les qualités, c'est-à-dire à la réalité en général, l'idée génératrice de notre mathématique. Elle ne s'acheminera nullement par là à la mathématique universelle, cette chimère de la philosophie moderne. Bien au contraire, à mesure qu'elle fera plus de chemin, elle rencontrera des objets plus intraduisibles en symboles. Mais elle aura du moins commencé par prendre contact avec la continuité et la mobilité du réel, là où ce contact est le plus merveilleusement utilisable. Elle se sera contemplée dans un miroir qui lui renvoie une image très rétrécie sans doute, mais très lumineuse aussi, d'elle-même. Elle aura vu avec une clarté supérieure ce que les procédés mathématiques empruntent à la réalité concrète. Et elle continuera dans le sens de la réalité concrète, non dans celui des procédés mathématiques. Disons donc, ayant atténué par avance ce que la formule aurait à la fois de trop modeste et de trop ambitieux, qu'un des objets de la métaphysique est d'opérer des différenciations et des intégrations qualitatives. Huitième proposition. Ce qui a fait perdre de vue cet objet, et ce qui a pu tromper la science elle-même sur l'origine des procédés qu'elle emploie, c'est que l'intuition, une fois prise, doit trouver un mode d'expression et d'application qui soit conforme aux habitudes de notre pensée et qui nous fournisse, dans des concepts bien arrêtés, les points d'appui solides dont nous avons un si grand besoin. Là est la condition de ce que nous appelons rigueur, précision, et aussi extension indéfinie d'une méthode générale à des cas particuliers. Or, cette extension et ce travail de perfectionnement logique peuvent se poursuivre pendant des siècles, tandis que l'acte générateur de la méthode ne dure qu'un instant. C'est pourquoi nous prenons si souvent l'appareil logique de la science pour la science même. Note de Bergson à cet endroit. Sur ce point, comme sur plusieurs autres questions traitées dans le présent essai, voir les beaux travaux de messieurs Leroy, Vincent et Villebois, parus dans la Revue de métaphysique et de morale. Fin de note. oubliant l'intuition métaphysique d'où tout le reste a pu sortir. Note de Bergson à cet endroit. Comme nous l'expliquons au début de notre second essai, dans La pensée et le mouvant, nous avons longtemps hésité à nous servir du terme intuition. Et, quand nous nous y sommes décidés, nous avons désigné par ce mot la fonction métaphysique de la pensée, principalement la connaissance intime de l'esprit par l'esprit, et subsidiairement la connaissance par l'esprit de ce qu'il y a d'essentiel dans la matière, l'intelligence étant sans doute faite avant tout pour manipuler la matière, et par conséquent pour la connaître, mais n'ayant pas pour destination spéciale d'en toucher le fond. C'est cette signification que nous attribuons au mot dans le présent essai, écrit en 1902, plus spécialement dans les dernières pages. Nous avons été amenés plus tard, par un souci croissant de précision, à distinguer plus nettement l'intelligence de l'intuition, comme aussi la science de la métaphysique. Mais d'une manière générale, le changement de terminologie n'a pas d'inconvénient grave quand on prend chaque fois la peine de définir le terme dans son acception particulière, ou même simplement quand le contexte en montre suffisamment le sens. Fin de note. De l'oubli de cette intuition procède tout ce qui a été dit par les philosophes et par les savants eux-mêmes, de la relativité de la connaissance scientifique. Est relative, la connaissance symbolique par concept préexistant, qui va du fixe au mouvant, mais non pas la connaissance intuitive qui s'installe dans le mouvant et adopte la vie même des choses. Cette intuition atteint un absolu. La science et la métaphysique se rejoignent donc dans l'intuition. Une philosophie véritablement intuitive réaliserait l'union tant désirée de la métaphysique et de la science. En même temps qu'elle constituerait la métaphysique en science positive, je veux dire progressive et indéfiniment perfectible, elle amènerait les sciences positives proprement dites à prendre conscience de leur portée véritable, souvent très supérieure, à ce qu'elle s'imagine. Elle mettrait plus de science dans la métaphysique et plus de métaphysique dans la science. Elle aurait pour résultat de rétablir la continuité entre les intuitions que les diverses sciences positives ont obtenues de loin en loin au cours de leur histoire et qu'elles n'ont obtenues qu'à coup de génie. 9e proposition. Qu'il n'y ait pas deux manières différentes de connaître à fond les choses, que les diverses sciences aient leurs racines dans la métaphysique, c'est ce que pensèrent en général les philosophes anciens. Là ne fut pas leur erreur. Elle consista à s'inspirer de cette croyance, si naturelle à l'esprit humain, qu'une variation ne peut qu'exprimer et développer des invariabilités. D'où résultait que l'action était une contemplation affaiblie, la durée une image trompeuse et mobile de l'éternité immobile, l'âme une chute de l'idée. Toute cette philosophie qui commence à Platon pour aboutir à Plotin est le développement d'un principe que nous formulerions ainsi. Il y a plus dans l'immuable que dans le mouvant, et l'on passe du stable à l'instable par une simple diminution. Or, c'est le contraire qui est la vérité. La science moderne date du jour où l'on érigea la mobilité en réalité indépendante. Elle date du jour où Galilée, faisant rouler une bille sur un plan incliné, prit la ferme résolution d'étudier ce mouvement de haut en bas pour lui-même, en lui-même, au lieu d'en chercher le principe dans les concepts du haut et du bas. Deux immobilités par lesquelles Aristote croyait en expliquer suffisamment la mobilité. Et ce n'est pas là un fait isolé dans l'histoire de la science. Nous estimons que plusieurs des grandes découvertes, de celles au moins qui ont transformé les sciences positives, ou qui en ont créé de nouvelles, ont été autant de coups de sonde donnés dans la durée pure. Plus vivante était la réalité touchée, plus profond avait été le coup de sonde. Mais la sonde jetée au fond de la mer ramène une masse fluide que le soleil dessèche bien vite en grains de sable solides et discontinus. Et l'intuition de la durée, quand on l'expose aux rayons de l'entendement, se prend bien vite aussi en concepts figés, distincts, immobiles. Dans la vivante mobilité des choses, l'entendement s'attache à marquer des stations réelles ou virtuelles. Il note des départs et des arrivées. C'est tout ce qui importe à la pensée de l'homme s'exerçant naturellement. Mais la philosophie devrait être un effort pour dépasser la condition humaine. Sur les concepts dont ils ont jalonné la route de l'intuition, les savants ont arrêté le plus volontiers leur regard. Plus ils considéraient ces résidus passés à l'état de symbole, plus ils attribuaient à toute science un caractère symbolique. Note de Bergson à cet endroit. Pour compléter ce que nous exposions dans la note précédente, disons que nous avons été conduits, depuis l'époque où nous écrivions ces lignes, à restreindre le sens du mot « science » et à appeler plus particulièrement scientifique la connaissance de la matière inerte par l'intelligence pure. Cela ne nous empêchera pas de dire que la connaissance de la vie de l'esprit est scientifique dans une large mesure, dans la mesure où elle fait appel aux mêmes méthodes d'investigation que la connaissance de la matière inerte. Inversement, la connaissance de la matière inerte pourra être dite philosophique dans la mesure où elle utilise, à un certain moment décisif de son histoire, l'intuition de la durée pure. Voir également la note de la page 177 au début du présent essai. Fin de note. Et plus les savants croyaient au caractère symbolique de la science, plus ils le réalisaient et l'accentuaient. Bientôt, ils n'ont plus fait de différence dans la science positive entre le naturel et l'artificiel, entre les données de l'intuition immédiate et l'immense travail d'analyse que l'entendement poursuit autour de l'intuition. Ils ont ainsi préparé les voies à une doctrine qui affirme la relativité de toutes nos connaissances. Mais la métaphysique y a travaillé également. Comment les maîtres de la philosophie moderne, qui ont été en même temps que des métaphysiciens, les rénovateurs de la science, n'auraient-ils pas eu le sentiment de la continuité mobile du réel? Comment ne se seraient-ils pas placés dans ce que nous appelons la durée concrète? Ils l'ont fait plus qu'ils ne l'ont cru, beaucoup plus surtout qu'ils ne l'ont dit. Si l'on s'efforce de relier par des traits continus les intuitions autour desquelles se sont organisés les systèmes, on trouve, à côté de plusieurs autres lignes convergentes ou divergentes, une direction bien déterminée de pensée et de sentiment. Quelle est cette pensée latente? Comment exprimer ce sentiment? Pour emprunter encore une fois aux platoniciens leur langage, nous dirons, en dépouillant les mots de leur sens psychologique, en appelant idée une certaine assurance de facile intelligibilité et âme une certaine inquiétude de vie, qu'un invisible courant porte la philosophie moderne à hausser l'âme au-dessus de l'idée. Elle tend par là, comme la science moderne, et même beaucoup plus qu'elle, à marcher en sens inverse de la pensée antique. Mais cette métaphysique, comme cette science,